Bonsoir. Deux thèmes dans cette émission. Le président de la République a décidé lundi dernier de suspendre l'installation des sénateurs nouvellement élus et de la tenue prochaine de l'élection de gouverneur. C'est une décision prise lors de la réunion interinstitutionnelle à la Cité de l'Union africaine. Eugène Diomine Dongala a été libéré ce jeudi 21 mars après que l'arrêté ministériel portant la mesure de sa libération conditionnelle ait été signé mercredi 20 mars par Alexis Thambo Mwamba, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Tels sont les thèmes principaux de ce soir dans Tribune de la Presse. Nous avons dans cette émission Pierre-Gérard Elenga, il est journaliste politique. Bonsoir Pierre-Gérard Elenga.
Bonsoir Guy Maté et bonsoir à tous les auditeurs de la radio Capi, spécialement ceux de l'émission Tribune de Presse.
Et Thierry Bongo, il est journaliste à Africa TV, télévision qui émet de Kinshasa. Bonsoir Thierry Bongo.
Bonsoir Guy Maté.
Bienvenue à tous dans cette émission. Comment la presse a traité l'actualité de la semaine? On écoute cette revue de presse que nous propose Donna Madimba.
Deux sujets se sont imposés dans la presse de la République démocratique du Congo cette semaine qui s'achève. Le dossier corruption pendant les élections sénatoriales et les noms qui se sont remis à circuler ces derniers jours sur l'identité du futur Premier ministre du pays. Concernant le dossier corruption sénatoriale en RDC, 7 sur 7.cd parle des auditions qui avaient déjà débuté au niveau de certains parquets généraux du pays pour réprimer ce délit. Congoprofond.net, de son côté, rapporte la mise en garde de la Ligue des Jeunes de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social UDPS en sigle contre ce qu'elle appelle les ennemis de la nation, sans toutefois dévoiler l'identité de ces ennemis. Albert Yuma, Aubin Minaku, Némi Mulanya, Emmanuel Chadari et quelques autres noms des personnalités politiques de la RDC, le journal La Prospérité ne se gêne pas du tout d'évoquer ces noms comme ceux des personnes pouvant être désignées à tout moment comme Premier ministre de la RDC. Car ce média du pays, comme de nombreux autres, rapporte que l'autorité morale de la plateforme Front commun pour le Congo FCC a déjà transmis le nom du primaturable au président Félix Tshisekedi. Premier ministre Kabila a déjà présenté à Tshisekedi un nom pour nomination, titre casse-info.ca, qui rapporte cette information livrée par Dieudonné Mwenze, porte-parole du Front commun pour le Congo FCC sur la radio Top Congo. Politico.cd, qui précise qu'il s'agit d'un formateur au singulier, rappelle aussi que dans une déclaration commune, la coalition au pouvoir cache cap pour le changement, le FCC Front commun pour le Congo avait appelé Joseph Kabila à désigner le formateur du gouvernement qui sera nommé par Félix Tshisekedi. Pour la prospérité, enfin, le service de la presse présidentielle a confirmé que le nom tant attendu tel que transmis par Joseph Kabila est parvenu au nouveau chef de l'État proclamé élu en janvier 2019 et qui, ce dimanche 24 mars 2019, jour pour jour, fera 2 mois au sommet de l'État congolais sans son propre gouvernement. Fin de citation.
Merci à vous, Donna Madimba, Pierre Elenga, journaliste politique. Quelle est l'actualité de la semaine que vous comptez commenter ce soir, à part les deux thèmes principaux de l'émission de ce soir?
Bon, écoutez, Guy Maté, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Je salue en même temps mon estimé confrère Thierry Bongo qui est avec moi dans ce studio. Mais permettez-moi quand même à tout seigneur, tout honneur, comme on le dit, certainement que je vais revenir autour de quelques points d'actualité qui me tiennent à cœur, mais de rendre ici hommage à une femme, à une dame, qui est même l'expression de l'amour, qui est même l'expression de la bonté féminine. Je vais parler ici de Madame Véronique Elenga, qui est ma mère, à qui je souhaite un heureux mois de mars, parce que je devais le faire sans que ce mois ne puisse se terminer. À côté d'elle, toutes les mamans de la République démocratique du Congo, de l'Équateur, ma province, et du territoire de Bassan, qui sont particuliers. Merci Guy Maté pour cette digression. Maintenant, je reviens par rapport à l'actualité de la semaine. Je fais ici allusion à la problématique des conditions de travail des journalistes. Ceci saute aux yeux parce qu'il se pose un sérieux problème. Écoutez, nous sommes sans fausse modestie des faiseurs d'hommes. tous ces politiciens nombreux qui se font passer aujourd'hui à la place publique, et on essaie quand même de citer leur nom, de les connaître, un peu comme les musiciens les disent, c'est nous qui les avons fabriqués. Comment, en relayant leurs activités politiques, en parlant de leur nom, en citant leur nom par rapport à ce qu'ils font, et aujourd'hui, l'opinion tant nationale qu'internationale arrive quand même à connaître qui est Bitakwira, qui est Makila, qui est Jean-Marc Kabound, qui est Augustin Kabouya, pour ne pas tous les citer. Mais le retour, quelque part, est un retour qui est discriminatoire, qui n'est pas correct.
Alors, regarde, vous êtes arrivé à quoi ?
Je suis en train de faire allusion ici à la grève qui sévit, par exemple, au niveau de Digital Congo et de la radio Télé 50. Ces radios ou ces médias qui, à la limite, étaient quand même des médias exemplaires. Vous voyez, quand vous voyez les Perrault, quand vous voyez les Floride Zantoto, nos amis, là, ça, ils inspiraient quand même un certain modèle au regard du travail et de la manière dont ils étaient quand même en train de mener leur travail. Il faut les souligner. Mais des grèves de 2 mois, de 24 mois, 28 mois, ça saute aux yeux. Et là, nous sommes en train de dénoncer des arriérés. Nous sommes en train de dénoncer avec la dernière énergie ce qui s'est passé, disons, avant-hier, au niveau de Digital Congo, où il y a eu les éléments de la garde républicaine qui sont venus pendant que les confrères étaient en train de manifester qui est un droit constitutionnel au regard de tous ces arriérés que je venais de dénoncer ici. Ils ont même tiré, nous avons les images, et tout sur l'avenir commerce, il y a eu paralysie totale. On se pose la question, qui a envoyé les militaires, là, les éléments de la garde républicaine pour venir tirer sur les paisibles journalistes qui manifestent par rapport à leurs revendications. Deuxième chose, toujours par rapport aux journalistes, rapidement, c'est la situation guimate de notre confrère de Mbandaka, Steve Moyo. Steve Moyo qui a été fait arrêter par le gouverneur sortant Bobo, et notre ami est en train de souffrir. Nous sommes en train de réclamer sa libération sans condition. Parce que nous disons ici que s'il arrivait à mourir, Bobo va prendre en charge, ce sera sur sa tête parce que c'est lui qui l'a fait arrêter. Il est parti couvrir une activité pour laquelle on l'a appelé comme journaliste. Il arrive là-bas, comme le problème est entre lui et Baïndé, il veut régler ses comptes politiques avec le pauvre Steve Moyo qui ne travaille que dans la radio de Baïndé, qui n'a rien à voir avec leur conflit. L'INPC est saisi, toutes nos instances qui nous régulent ont été saisies, et jusque-là, il n'y a rien dans ce sens-là qui fait en sorte que notre ami soit libéré. C'est pourquoi nous demandons sa libération immédiate sans autre forme de procès.
Merci Thierry Bongo, journaliste à Africa TV Télévision qui émet de Kinshasa. C'est quoi l'actualité de la semaine qui vous a intéressé? Est-ce que vous êtes sur cette problématique des conditions de travail des journalistes relevée ici par Pierre-Gérard Elenga?
Merci beaucoup Guy Maté. Je remercie aussi Pierre-Gérard Elenga pour cette ouverture sur ce dossier qui nous tient à cœur. On a même discuté avant d'entrer dans ce studio. C'est vrai que le journaliste en RDC, on a ce sobriquet de quatrième pouvoir, mais malheureusement, c'est un pouvoir maltraité, un pouvoir qui est martyrisé. Nos confrères, j'en ai beaucoup qui sont des amis particuliers ici à Télé 50, avec ceux avec qui on a eu même un travail dans la même rédaction, ce sont des gens de valeur, des journalistes avérés, des bons professionnels. S'ils en arrivent à cela, c'est que effectivement il y a un problème, il y a un malaise. Ces médias, Télé 50, Digital Congo, ont pendant pratiquement 10 ans été les médias mis sous la coupe du pouvoir. Le pouvoir avait une certaine affection vis-à-vis de ces médias et il les couvait. C'est à un certain niveau, on ne peut pas le cacher. C'est ce qu'on voyait dans la production, dans le traitement de leurs informations. Alors, aujourd'hui, ce qui saute aux yeux, c'est de voir ces manifestations arriver à leur niveau. Cela prouve qu'il y avait 10 ans de malaise, 10 ans de frustration qui sort une fois pour toutes parce que nous sommes arrivés à une ère où la contestation est autorisée. Maintenant, la vraie question à se poser, c'est, de manière générale, les conditions de travail des journalistes, les conditions de traitement des journalistes. Est-ce que ce n'est pas un système voulu pour nous empêcher d'être libres, de pouvoir exercer notre métier, un métier qui est un contrepoids contre les antivaleurs de la société, antivaleurs érigées en tant que règles. Deuxième élément important que j'aimerais relever, c'est la recrudescence des violences policières depuis un certain temps. Vous avez remarqué que pour Digital Congo, il y a eu tir à balles réelles. Puis Gérard nous dit que ce sont des éléments de la garde républicaine. Je ne les ai pas vus, mais je sais qu'il y a eu détonation en plein centre-ville et en plein après-midi. Et nous avons été particulièrement touché, particulièrement surpris et étonné de l'usage excessif ces derniers temps des armes létales. Vous avez vous-même aussi suivi une certaine actualité aussi, l'utilisation d'armes à feu sur l'avenue 80 jours, ici à Kinshasa, où une garde, un cortège d'une autorité est passé devant un véhicule Mercedes et a tiré à bout portant, un des policiers a tiré à bout portant sur le chauffeur, tuant le chauffeur sur le coup et blessant une dame gravement, voire mortellement. Aux dernières nouvelles, on nous a appris qu'elle est décédée. Dans le minibus, on peut ne pas comprendre.
Est-ce qu'on a identifié finalement ces policiers ?
Malheureusement, jusqu'à présent, je n'ai pas plus d'informations que cela. Je crois qu'en sortir de ce studio, nous aurons plus d'éléments. Mais seulement, nous sommes en train de relever l'usage assez excessif ces derniers temps, ces dernières semaines, d'armes létales par les forces de l'ordre. Et souvent, pour des manifestations tout à fait pacifiques et précisément pour une réclamation populaire. Je ne vois pas pourquoi. En RDC, jusqu'à présent, les policiers doivent être armés d'armes de guerre. Pourquoi dans la cité, pourquoi dans la ville, on doit avoir des policiers armés jusqu'aux dents, même s'ils doivent sécuriser une autorité, il y a meilleur moyen de le faire.
Merci. Nous abordons notre premier thème de ce soir. Le président de la République a décidé lundi dernier de suspendre l'installation des sénateurs nouvellement élus et de la tenue prochaine de l'élection des gouverneurs. C'est une décision prise lors de la réunion interinstitutionnelle à la cité de l'Union africaine. Félix Tshisekedi a instruit à cet effet le procureur général et près la cour des cassations de diligenter des enquêtes contre les corrupteurs et les corrompus au cours de l'élection des sénateurs, à en croire les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur et porte-parole de la réunion interinstitutionnelle. La décision du chef de l'État est motivée par son souci de lutter contre la corruption. Les détails avec Alain Irung.
En termes de réaction, l'Union pour la démocratie et le progrès social, par le canal de son secrétaire général Augustin Kabouya, salue la mesure prise par cette réunion interinstitutionnelle. De son côté, le Front commun pour le Congo salue aussi la volonté du président de la République de mettre fin à la fraude et à la corruption. Son porte-parole Aimé Kilolo rappelle cependant que la réunion interinstitutionnelle n'est pas le cadre où se prennent les décisions en dehors des orientations politiques. Il encourage la justice à faire son travail en toute indépendance et appelle au respect strict de la Constitution. Aimé Kilolo précise que ces mesures du chef de l'État ne donnent lieu à aucune crise entre CACH et le FCC. Pour sa part, la coalition Lamouka, qui a soutenu la candidature de Martin Fayoulou, estime que l'instance qui a pris la décision de repousser les élections des gouverneurs n'a pas qualité du point de vue juridique. Valentin Guérengo, son porte-parole, ajoute que les deux partenaires FCC et CACH devraient plutôt s'entendre au lieu de violer la Constitution.
Merci à vous Alain Irung, Pierre Gérard Elenga, journaliste politique. Cette décision qui continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive, était-elle opportune?
Oui, très bien, merci. Guimaté, la question est tellement pertinente qu'il faut la répondre avec beaucoup de froideur. Mais une petite parenthèse rapidement pour dire qu'il y a des choses dans ces pays qu'on ne peut pas accepter. Un élément d'une garde rapprochée d'une autorité qui tire sur un civil qui ne voulait pas faire l'attentat pour tuer ses autorités, je crois qu'il y a un problème sérieux dans ces pays.
On espère aussi que cela va interpeller les autorités tant civiles que militaires.
Félix Tshisekedi lui-même, les différentes autorités à tous les niveaux, ça, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas accepter cela. De quelles autorités avons-nous qui ont peur même de voir des taxis en train de passer quand ils passent avec leur cortège? On doit poursuivre même cette autorité-là avec toute sa garde. Maintenant, je reviens par rapport à la
Est-ce
question...
Est-ce que la décision prise par le chef de l'État est-elle opportune?
Oui, la décision est naturellement opportune. Opportune parce que je dois d'abord préciser ici qu'il est plus ici question... d'éthique. La question est plus politique et la question elle est plus d'ordre moral que judiciaire. Écoutez, l'UDPS s'est battu pour des valeurs dans ce pays. Pendant 36 ans, nous connaissons quel est le slogan, l'état des droits, lutte contre la corruption, la promotion de la démocratie et tout ce que vous pouvez vous imaginer. Je crois qu'en marge de tout ceci, vous prenez d'autres pays, et d'autres partis politiques, allais-je dire plutôt, comme le PPRD, vous avez le MLC, vous avez tous ces autres partis qui ont été des anciens mouvements politico-militaires. Je crois que tous se rencontrent autour de certaines valeurs universelles qui sont indiscutables quand même. Mais ce qui se passe dans notre pays, nous n'avions cessé jamais de le décrier, ce n'est pas seulement par rapport à ces élections. Il faut le dire que la corruption dans notre pays a atteint un niveau inacceptable. Nous assistons aujourd'hui à une corruption qui devient même institutionnalisée. Lorsque les députés provinciaux se tapent la poitrine pour dire que nous sommes en train de vendre librement nos voix, aujourd'hui, je crois que et l'opinion nationale et internationale, nonobstant tout ce qu'on peut s'imaginer pour dire de tout ce que vous voulez par rapport au procureur général près la cour de cassation, le pasteur Flory Kabangé, quand il demandait les reports pour enquêter, aujourd'hui, les gens lui ont donné raison. Chimanga, vous avez Ada Bombole, vous avez professeur Luzolo Bambi et bien d'autres qui ont eu à retirer leur candidature au niveau des élections sénatoriales pour cause de corruption. Donc, la décision du chef de l'État, il faut le souligner, elle a quand même une substance constitutionnelle, si vous voulez. Je renvoie nos auditeurs à l'article 69 de notre Constitution qui stipule beaucoup de choses, mais je prends seulement la phrase qui dit que le président de la République, il est le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions de la République. Le Sénat faisant partie du Parlement, nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui, cautionner, même si vous allez dire que les droits ce sont des faits, les faits sont là parce que nous allons attendre les enquêtes qui seront menées par la justice.
Merci.
On ne peut pas avoir dans une chambre qu'on appelle la chambre des sages, la chambre des sénateurs, certains en plus grand nombre qui sont des corruptibles, qui sont des gens qui sont en train de corrompre pour
Merci
passer. Pour preuve, vous allez voir que les mêmes, certains sont des députés provinciaux, nationaux, mais ils ont été entre guillemets aussi élus députés. Donc la décision du chef de l'État par souci de moraliser la classe politique congolaise, c'est justifié parce que demain, nous devons enseigner à nos enfants que voilà, on a connu un tel Sénat qui a eu ceci, cela, mais je crois que sur le plan politique, les choses vont se résoudre.
On va s'écouter le point de vue de Thierry Bongo, qui est journaliste à Africa TV, télévision qui émet de Kinshasa. Et comment vous réagissez, Thierry Bongo, à ce débat, hein, n'est-ce pas, qu'a commencé à évoquer puis Gérard Elenga, ce débat qui a été suscité, n'est-ce pas, par cette décision de chef de l'État. L'UDPS salue la décision, mais la MUCA et le FCC estiment que l'instance qui a pris la décision de repousser les élections du gouverneur n'a pas qualité du point de vue juridique.
Bon, autour de ce débat, on peut se dire qu'il y a de la vérité, de la contre-vérité, de l'émotion, de la passion, mais il faut réfléchir de manière transversale. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le chef de l'État, à travers un communiqué, lu par son directeur de cabinet, enfin, par la direction de son cabinet, a pris des mesures. Quelles sont ces mesures? Suspension de l'installation du Sénat, report sine die des élections des gouverneurs. De point de vue politique, ces décisions sont motivées par quoi? Par la volonté du chef de pouvoir apaiser d'abord les militants de l'UDPS, qui étaient fâchés, en colère, et qui sont sortis dans les rues, qui ont brûlé, on s'est même exprimé ailleurs pour dire qu'il y a eu mort d'homme, et pour apaiser ces militants, le président de la République a pris cette décision pour calmer la situation, d'autant plus que ça commençait à devenir vicieux de voir des accusations de corruption à un certain niveau de l'État qui pose certains problèmes d'image. Le président de la République a pris ses décisions pour présenter une image de sévérité. Hein? Il se présente comme un président du changement, et le changement, l'un des grands chantiers du changement, c'est la lutte contre la corruption.
Et donc, sur le plan politique,
c'est une décision qui se justifie outre mesure. Seulement, si vous regardez sur un plan juridique, il y a conflit entre la volonté de lutter contre certaines tares et ce que prévoit la loi. On ne peut pas, parce qu'on est président de la République, institution du pays, freiner l'installation d'une autre institution. Qui plus est, son installation est prévue dans la Constitution, article 114. Le Sénat doit s'installer de plein droit au 15e jour après la proclamation des résultats par la Commission électorale nationale indépendante. Donc, sur le plan de droit, il y a un problème. Il y a un problème de blocage. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être évoqué dans votre sujet, le FCC a déclaré librement qu'il va envoyer ses sénateurs se présenter auprès du Sénat pour siéger dans les 15 jours. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on n'est pas en train de pousser le chef de l'État à violer la Constitution pour des fins qu'on ne connaît pas, Voilà pourquoi je suis de ceux qui pensent qu'il y avait peut-être une autre mesure à faire. Mais seulement, je suis en train aussi de réfléchir librement pour dire qu'il a été aussi malin parce que le président de la République statue sur base d'ordonnance. Ses décisions, ce n'est pas un communiqué qui le traduit. Et en plus de ça, on l'a tous répété ici, la réunion interinstitutionnelle est informelle. La réunion interinstitutionnelle donne des recommandations auprès des institutions pour qu'elles puissent exécuter.
Et donc cette réunion devait recommander, n'est-ce pas, à la CENI de suspendre...
Recommander à la CENI de suspendre, de renvoyer s'immédié l'élection des gouverneurs. On attend que la CENI nous produise un nouveau calendrier prévoyant une autre date pour les élections des gouverneurs. Mais pour ce qui est de l'installation des Sénats, je crois qu'il y a une grosse difficulté du point de vue du droit, parce que rien et aucun acte empêche les sénateurs d'aller se présenter au Sénat 15 jours après. Et c'est là où se trouve la difficulté du président de la République. Cependant, je crois que le président de la République a donné une mission importante auprès d'une institution qui est le procureur général près de la Cour de cassation. Nous l'avons dit lors de l'émission passée, seule la justice peut sauver ce pays. Et je crois que le PGR doit être secoué dans ce pays. Il doit être une personne qui ne dort pas. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à dire. Sur le cas de corruption, aujourd'hui, ça saute aux yeux. Mais dès le départ, quand on parlait des campagnes électorales, quand tous ces députés provinciaux se sont fait élire, ils se sont fait élire de quelle manière? Nous avons vu dans les médias des candidats députés distribuer de l'argent aux mamans, soi-disant qu'ils financent leur vente de pain, vente de ceci, cela. Et il faut
avoir une forme de corruption.
Et ça passait à la télévision. Des ministres cautionnés par la société. Merci. Il faut comprendre qu'il y a un problème culturel sur le plan de la corruption. Il faut qu'on puisse pas prendre la chose à la légère. Le président de la République a donné une grande mission au PGR. Et c'est au PGR d'agir.
Merci Pierre Elenga. Tout est parti des allégations de corruption après la débâcle de l'IDPS sénatorial de vendredi dernier. Et du coup, les concernés, donc les députés provinciaux qui sont mis en cause ici, s'accusent mutuellement. Et comment vous analysez ce climat au sein de l'IDPS aujourd'hui, les députés qui sont en train de s'accuser mutuellement, les Peter Kazadi qui disent... nos amis ont été corrompus, les amis disent ce n'est pas nous qui avons été corrompus, c'est plutôt Kaboum et Peter qui ont mis sur la liste un membre qui ne fait pas partie de l'IDPS. Voilà, donc comment vous analysez ce climat qui prévaut actuellement au sein de l'IDPS?
Non, merci pour la question. L'on ne bouge pas sans qu'on puisse y jeter quelque chose. Je ne veux pas ici ne pas les rappeler, vous le savez. Moi-même, j'étais candidat député national. Je sais comment quand même ces choses-là se passent.
Les accusations
au sein des députés provinciaux de l'IDPS, notamment ceux de Kinshasa, se justifient. Certains d'entre eux ont été certainement corrompus. Et je vous dis ici que, tout en étant très désolé, ils n'ont pas su qu'il y avait des... Écoutez, pour que ceux qui nous suivent comprennent un peu comment est-ce que les choses se sont passées. L'UDPS a 12 députés provinciaux au niveau de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Normalement, calcul simple faisant, il devrait plus ou moins avoir 4 ou 3 sénateurs. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a répartis, groupe ABC, 4 députés provinciaux qui vont voter Bongo, 4 qui vont voter Guimaté, 4 qui vont voter Guirung. Mais on se retrouve que Guimaté est sorti avec 0 voix. C'est comme pour dire que les 4 qui étaient recommandés par les partis pour vous voter n'ont pas eu à vous voter. Et qu'est-ce que nous allons déduire, conclure là-dessus? Qu'ils ont été corrompus. Donc je crois qu'aujourd'hui, là, le go est parti avec les partis du président de la République, mal au cœur, malheureusement. On n'a pas su aligner des gens qui devraient amener, accompagner le président avec les changements. Par contre, ils sont les premiers à être des gens qui ont été corrompus au niveau de l'Assemblée provinciale. Donc cela se justifie et on voudrait que sur le plan politique, comme Kaboun l'avait dit au niveau du parti, qu'on puisse sanctionner ces députés provinciaux pour besoin d'exemplarité.
Merci.
Et pour sur le plan institutionnel, que le PGR puisse se saisir de tous ces cas, parce que je cite, cette dimension est importante. La réunion interinstitutionnelle Guimaté, c'est une instance informelle, mais elle est chargée par contre le président de la République, qui est la première institution du pays, de produire un communiqué là-dessus, et le président a instruit le PGR pour qu'il y ait en attendant de
poursuivre. Et à votre avis, jusqu'où pourrait aller l'UDPS?
Bon, l'UDPS, je dois le dire, hein, sans l'eau dans ma bouche, qu'à la lire au vent des choses, ça ne les rassure pas. Je crois qu'ils ne doivent pas être dépassés par l'ivresse du pouvoir, et c'est là où je me dis que si le président Tshisekedi, qui est aussi l'autorité morale de l'UDPS, oublie la base, ça va être compliqué, parce qu'en termes d'hommes, il faut dire clairement que l'UDPS aujourd'hui pose des problèmes. Voilà l'entourage du président au niveau du cabinet, c'est plus des alliés, mais pas vraiment des gens qui sont issus de l'UDPS. Donc on doit repenser l'UDPS dans ce sens-là pour que ça ne puisse pas poser de problème à son avenir politique.
Thierry Bon, lorsque vous suivez les révélations faites par les députés provinciaux, membres de l'UDPS qui sont mis en cause, ils affirment que Maître Peter Kazadi leur a demandé de voter pour un candidat qui n'est pas membre de l'UDPS, que M. Kabunda Kabound a aligné sur la liste de l'UDPS un candidat qui n'est pas membre de l'UDPS et sans informer, n'est-ce pas, au préalable des députés provinciaux. Et que Maître Peter Kazadi a retiré sa candidature à la présidence de l'Assemblée provinciale, ça pour autant, au préalable, informer les députés provinciaux. Et donc, ce qui transparaît ici, c'est que les députés provinciaux n'ont pas été associés aux différentes stratégies mises en place par le parti.
Effectivement, je crois que au niveau de l'UDPS, on veut entretenir un certain obscurantisme sur les relations qu'on noue avec les différents partenaires dans ces élections, notamment les partenaires du FCC et autres. C'est vrai, et puis Gérard l'a dit, il y a peut-être déficit de cadre au niveau de ces partis-là, qui sont des partis populaires, des partis de masse, où vous y trouvez une grande partie de personnes avec peut-être pas suffisamment de niveau scolaire ou académique, mais qui font vivre le parti. Et donc, quand il s'agit de donner des responsabilités, le CV pose problème, et c'est peut-être à ce niveau-là que le jeu se joue. Maintenant, c'est là aussi que je pose des questions. Maintenant, où se trouve ce manque de transparence ? Jean-Marc Kabound qui met sur la liste des personnes qui ne sont pas de l'UDPS, Kazadi Peter qui se retire peut-être pour un jeu d'alliance avec peut-être en contrepartie des sénateurs qui ne sont pas de l'UDPS, ce sont des choses qui doivent être dites en amont des discussions au préalable. Je regrette que les députés provinciaux de l'UDPS n'ont été réunis que 24 heures avant l'élection. Bien avant, quand il y avait tractation, ils n'ont pas été associés. On ne peut pas prendre des gens comme des marchepieds, on ne peut pas prendre des gens comme des faire-valoir. Maintenant, il y a une question morale qui se pose. Est-ce que le député d'un parti politique, fût-il provincial ou national, est lié par son choix, ultimement par le choix de son parti ? Parce que dès lors qu'on est élu député, on est élu député de la population.
Le mandat est non impératif.
Non impératif. Le mandat est non impératif. Ces choix ne peuvent pas être dictés, commandés par un choix extérieur. Nous avons ici.
Et donc, on ne peut pas punir, on ne peut pas sanctionner un député parce qu'il est allé à l'encontre, n'est-ce pas, de la consigne donnée par son
parti. Dans un État démocratique, je vois mal qu'un député puisse avoir une consigne. Dans un État démocratique, le député est conscient de son choix parce que son choix doit être correspondant au choix de son parti. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais là où je suis en train de revenir, c'est parce que nous avons, pendant un certain moment, moi je suis journaliste politique, accrédité au Palais du Peuple, pendant un certain moment, la classe politique a malmené pratiquement verbalement ce Parlement-là en disant que c'était une caisse de résonance de la majorité présidentielle, les ordres venaient de l'extérieur et venaient s'appliquer au niveau du parti. Je ne veux pas que l'UDPS puisse entrer dans ce même jeu-là. En démocratie, le député provincial est libre de ses choix. Le fait qu'il ne choisisse pas un candidat qui ne l'aspire pas à confiance, peut-être parce que le profil que vous avez mis devant lui ne l'aspire pas à confiance, il est libre. C'est cela la démocratie. On doit comprendre cette dimension-là. Ça n'élude pas le fait qu'il y ait corruption, ça n'élude pas le fait qu'il y a eu échange de biens contre voix. Je n'ai pas de preuve pour le dire, mais je dis que ça va être difficile de prouver que le choix de ce député, de tel député, a été émis par rapport à une forme de corruption. Ça peut être aussi un choix émis par, justement, comme vous l'avez dit ici vous-même, par un casting mauvais, un casting qui a été mal fait au niveau du parti, un casting qui n'a pas associé les personnes qui doivent donner les voix. Il faut savoir que chaque élu est lié d'abord à sa population. Et le parti vient après. Il y a certaines personnes à qui on a donné des voix, non pas parce qu'il est membre d'un parti, mais peut-être par affinité, par peut-être amitié et autre conditionnement. Donc voilà ce que moi je peux dire par rapport à cela. C'est assez élargi de pouvoir toujours dire que si le choix n'est pas celui du parti, c'est un choix corrompu.
Voilà, toujours par rapport à cette question, beaucoup disent au sein des UDPS que le mal est profond. Et vous ne pensez pas qu'au-delà des enquêtes qui sont en cours sur les allégations de corruption, il faudrait aussi chercher à comprendre les tenants et les aboutissants n'est-ce pas, de cette situation qui prévaut actuellement au sein de l'UDPS.
Oui, très bien. Naturellement, il faudrait qu'on essaie un peu de comprendre ce qui se passe là-dessus. Constitutionnellement parlant, le mandat d'un député est d'abord non impératif, ce qui fait qu'il n'est pas lié à des mauvais mots d'ordre. Parce qu'il faudrait pas aussi présenter les choses ici comme si les partis politiques complotent pour la population. J'ai toujours relevé cette dimension de la citoyennisation des militants des partis politiques. Parce que, entre autres, comme mission, le parti politique a comme mission de citoyenniser ses militants, de les éduquer civiquement, politiquement, pour qu'ils sachent à quoi ils sont appelés à jouer comme rôle. Donc, c'est important ici. Maintenant, le contraire ici, c'est quoi? Effectivement, la base de l'UDPS, les militants de l'UDPS, qui sont du reste et qui font partie, bien sûr, de la population aussi, parce que c'est une frange de la population, même s'ils sont militants de l'UDPS. Ils n'ont pas été contents du choix opéré par leurs députés provinciaux, mon Dieu. C'est justement ça le contraste.
Merci.
Donc, il ne faut pas dire si le profil, tout ça, ainsi de suite. C'est vrai que Jean-Marc Kaboun, comme le numéro 1 du parti, doit s'expliquer là-dessus, parce qu'on ne le dit pas beaucoup. On devrait avoir 3 ou 4 sénateurs au niveau de la ville de Kinshasa, mais ça, on ne le dit pas. L'UDPS a eu à présenter ici, dans la ville de Kinshasa, 8 candidats sénateurs. Est-ce que vous le savez? Pourquoi 8 au lieu de 4 déjà en étant en embarras? Mais si le mot d'ordre, c'est un mot d'ordre bien donné, mais vous vous dérobez par rapport à ce mot d'ordre, par rapport à la discipline du parti, vous allez dans des pratiques de corruption. Là, c'est condamnable que vous le vouliez ou pas. Merci. Et certains députés de l'UDPS et de provinciaux, je le redis et je le dis, qu'ils ont été corrompus. Et ça, c'est la honte de l'UDPS. Le mal est profond. Il faudrait qu'on change dès au début, parce qu'avec un parti présidentiel comme ça, ça ne va pas.
Merci, on a compris. Donc, les responsabilités sont partagées et cela nous permet de passer à notre deuxième thème de ce soir. Eugène Diomi Ndongala a été libéré ce jeudi 21 mars après que l'arrêté ministériel portant à la mesure de sa libération conditionnelle ait été signé mercredi 20 mars par Alexis Thambo Mwamba, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Les dix arrêtés énumèrent une série de restrictions. Les détails avec Alain Hirong.
Le président du parti Démocratie Chrétienne ne peut pas, par exemple, se livrer à des déclarations et activités politiques de nature à troubler l'ordre public et le bon fonctionnement des institutions étatiques. Ces mouvements sont également contrôlés. Il ne peut sortir du territoire national sans l'autorisation préalable du procureur général près la Cour de cassation. Il ne peut pas non plus se rendre dans un point de sortie du territoire national pendant la durée de l'épreuve. Il lui est également interdit de se retrouver dans un périmètre de 500 mètres d'une école des filles pendant les heures de cours. Il devra également faire attention à son comportement et ne pas causer de scandale par sa conduite. Diomi ne doit pas non plus encourir une peine privative de liberté jusqu'en 2023. Enfin, il devra se présenter chaque lundi devant le procureur général près la Cour de cassation. Diomi avait été condamné le 26 mars 2014 par la Cour suprême de justice à 10 ans de servitude pénale principale pour viol avec violence, exposition d'enfants à la pornographie, détention d'enfants et tentative de viol d'enfants. Arrêté le 8 avril 2013, Diomi a déjà purgé plus d'un quart de la peine prononcée.
Merci à vous Alain Hirung, Thierry Bongo, après Franck Diongo et Firmé Yangambi, et c'est Diomi Ndongala qui a été libéré. Comment vous réagissez à toutes ces libérations?
D'abord, je suis très satisfait de la libération de tous ces acteurs politiques de grande envergure. Franck Diongo, c'est quand même un grand combattant de la liberté. Firmé Yangambi, il a été arrêté de manière impunément pour une affaire qui ne le concernait même pas. Je peux dire qu'on peut se satisfaire déjà de ce qui a été fait sur le plan de la décrispation politique. Pour ce qui concerne Eugène Diomi Ndongala, on a compris l'embarras du chef de l'État parce que la RDC est un signataire d'instruments internationaux contre le viol et les crimes contre l'humanité. Ce sont des crimes qui ne sont pas passibles de grâce présidentielle notamment. On a compris l'embarras du président de la République qui ne pouvait pas se livrer sur ce dossier de manière assez rapide comme cela. Mais on constate que malgré le fait que Diomi Ndongala est libre, mais il n'est pas en liberté. Il est peut-être hors de la prison, mais toutes ces mesures restrictives le met justement en liberté plus que conditionnelle. Je peux même dire qu'il est en prison conditionnelle, parce qu'il est plus en prison qu'en liberté. Hein, comment ne pas se livrer à des activités politiques ou qu'un acteur politique susceptible de troubler l'ordre public? Parce que l'ordre public, le trouble de l'ordre public, c'est une infraction. Il y a plusieurs interprétations de la part des officiers de l'ordre public ici en RDC. Alors, comment il ne peut pas exercer ses droits politiques? Alors, il est vraiment en prison. sans pourtant l'être dedans. Diomi Nunga alors lui dit que voilà, il peut pas se présenter à 500 mètres d'une école où se trouvent des jeunes filles. Il va habiter où? Il y a des écoles partout. Il y a des écoles partout. Il va habiter où? Et pourquoi dire spécifiquement les écoles? Il y a des jeunes filles partout. Il y a des jeunes filles dans les piscines. Il y a des jeunes filles dans les hôtels. Il y a des jeunes filles dans les églises. Il y a des jeunes filles dans les hôpitaux.
Même celui à la maison.
Même celui à la maison, il y a des jeunes filles.
Il peut avoir des nièces.
On l'a arrêté où? On l'a arrêté chez lui. On l'a arrêté chez lui avec des jeunes filles. Alors, si je crois que ce sont des mesures qui visent plus à salir son image, soit on le libère, soit on ne le libère pas. Bon, soit le ministre Tambwe Mwamba, qui l'a appelé Diomi Nunga la prédateur sexuel, a une certaine appréhension de cette personne. Nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants. Mais là où je comprends aussi très mal sa démarche, c'est le fait qu'à part Diomi Nunga, là, on a libéré d'autres violeurs. On a libéré d'autres violeurs. On a élargi justement la libération à d'autres personnes. Ça n'a pas été personnellement pour Diomi. Or que pour Diomi, il y avait cette présomption de complot politique, complot de machination.
Merci.
Et voilà. Donc on a pratiquement un petit peu profité de la brèche.
Oui, puis Gérard, Elena, le cas Diomi a été particulier. Hein? On a suivi, n'est-ce pas, toutes ces procédures qu'il fallait utiliser afin d'obtenir sa libération. Et donc au-delà du fait d'être considéré comme prisonnier politique, le nom s'y tenait compte de l'autre dimension évoquée souvent par les régimes passés. Diomi était un prisonnier des droits communs.
Bon, merci pour la question. Mais je suis en train de faire mien ici les propos de Bongo. Nous l'avons dit ici dans l'émission de la semaine dernière, que la justice élevait une nation. Et moi, j'avais même rappelé qu'en ma qualité de chrétien, nous avons certaines valeurs pour lesquelles on ne peut pas discuter, on ne peut pas faire des compromis, entre autres la justice, par exemple. Mais ce que nous voyons dans notre pays, Guimaté, laisse vraiment à désirer. Je me pose la question. Diomi Nunga, ferait partie de toutes ces personnes qui ont commis des infractions de droit commun, parce qu'on parle ici des viols, de toute cette litanie d'infractions qu'on a eu à admirer là-dessus. Il avait été condamné à 10 ans de prison ferme. Mais je me demande, je me dis, est-ce que Diomi Nunga est seulement libéré? Est-ce que Diomi Nunga est seulement libéré? Je suis désolé que les hommes politiques, à leur niveau, ils sont toujours prêts à se régler des comptes. Et le pays ne peut pas avancer comme ça, mon cher ami. Si vous voyez un peu tout ce qu'il y a comme conditions autour de la libération provisoire de Diomi Nunga, des jeunes Diomi Nunga, je me dis, mais moi, à sa place, je demanderai de rester à Makala, accomplir mes 10 ans et après sortir.
Est-ce que
c'est quoi ça? C'est chercher à ternir l'image d'un père de famille, d'un mari d'autre.
Gérard Elenga,
oui, qui
tout cela, comme l'a dit Thierry Bongo, et que tout cela ne traduit pas l'embarras dans lequel se sont trouvés le ministre de la Justice, même le chef de l'État, pour prendre la décision de libérer.
Non, écoutez, pas celui-là, pas Tambwe Mwamba quand même. Lorsqu'on est quand même à la limite relativement indécent. On appelle un ancien collègue député national, on dit qu'il est prédateur sexuel. C'est quand même exagéré, on reconnaît un peu Tambwe Mwamba avec ses écarts de langage, mais là, je crois quand même que Diomi Nunga, nonobstant ce qu'il a fait, tout ce qu'il est en train de subir, nous savons, ils sont nombreux les violeurs dans ce pays. Allez dans l'Est, il y a certains qui sont des généraux qu'on a bonifiés ici, qui ont eu des fonctions politiques et ainsi de suite, ils n'ont fait que violer à l'Est du pays. Est-ce qu'on tire subi le sort que Diomi Nunga vient de subir? Ça, c'est injuste quelque part. Moi, je demande à Diomi de rentrer à Makala. Il ne lui reste plus que 2 ans, 3 ans. Terminer sa peine et sortir libre, parce que ça, ce n'est pas une liberté. C'est vrai, le président de la République s'est retrouvé dans une situation de complexité, mais faudrait-il le rappeler aussi au niveau de commun des mortels que la grâce présidentielle ne s'octroie pas à n'importe qui? Parce que là, la question qui suit tout de suite est celle de savoir pourquoi le colonel Eddy Kapens, qui a été cité dans l'histoire de l'assassinat de Moussa Laurent Désiré Kabila, n'est pas sorti. On ne libère pas par la garde présidentielle qui on veut. Il y a certainement des conditionnalités parce qu'il s'agit de la justice. Mais cette manière de faire, cette manière sélective de faire, de vouloir régler des comptes politiques en se servant du judiciaire, est incorrecte et ce n'est pas bien. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui, demain vous ne pouvez pas être et ça peut retourner contre vous ce qui n'est pas bon. Mais on salue quand même, quel que soit le cas, cette libération plus que conditionnel, qui limite les 2 Mindonga là tout. Je ne sais pas pour ce temps qui reste, il ne sera que dans sa parcelle, il ne sortira même pas. Qu'est-ce que ces activités politiques ont à voir avec les infractions qu'il avait commises?
Merci,
ça, c'est trop injuste.
Thierry Bongo,
c'est trop injuste à mon avis.
Toutes ces libérations, peut-on espérer qu'il n'y aura plus des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion en RDC?
Espérer, je ne suis pas de ceux qui voient l'angélisme dans le chef de nos acteurs politiques. Je suis de ceux qui gardent toujours un air assez crispé. Je vais vous dire que je n'ai pas encore vu de signaux clairs qui prouvent qu'on a fini avec ces arrestations arbitraires. Nous allons voir, on a un nouveau AG au niveau de l'ANR, on a un nouveau patron de la DGM, on a un nouveau système sécuritaire qui se met en place. On va voir les premiers signaux qui vont être mis en place. Nous attendons encore la mise en place d'un nouveau inspecteur général à la police. Nous attendons encore la mise en place d'un nouveau chef d'état-major. Le comportement des forces de l'ordre vont déterminer si, effectivement, on n'aura plus de prisonniers de droit commun ou de prisonniers d'opinion. Maintenant, il y a ici la dimension politique à la chose. Le président de la République a voulu marquer une sorte de rupture avec ce qui se passait dans le passé. Bon. Attendons voir, wait and see. Il n'a encore que 2 mois à la tête de ce pouvoir. Mais je souhaite que ça ne puisse pas s'arrêter là. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on a vu les figures soi-disant emblématiques sortir de prison. Mais il y a encore le procès Kamuina Nsapu.
Voilà.
On n'a pas encore vu.
Ils n'ont pas été libérés.
On n'a pas vu de Kamuina Nsapu libéré.
Parce qu'il y a une certaine opinion qui pense que ces gens-là, c'est aussi des prisonniers politiques.
Certaines personnes pensent que ce sont des prisonniers politiques, bien que certains sont condamnés pour des crimes de guerre. Et les crimes de guerre, je l'ai dit tout à l'heure, ne peuvent pas être passibles de grâce présidentielle. Il y a aussi un autre aspect important. Il y a les cas politico-judiciaires de Moïse Katumbi, par exemple, qui est toujours à l'extérieur du pays, qui craint pour de revenir pour...
Mais qui a obtenu son passeport. Il faut annoncer si
non, le passeport est un droit. Le passeport est un droit. Même un prisonnier peut avoir un passeport. Le fait d'avoir un passeport ne fait pas de vous êtes gracié. Le problème, c'est qu'il y a un souci politico-judiciaire en RDC pour le cas Moïse Katumbi. Il y a des personnalités politiques telles que Moussa Nyamwisi qui n'arrivent pas à revenir au pays parce qu'ils craignent justement que la machine qui les a... pousser en dehors du pays, de plus les rattraper. Et avec toutes ces personnes, plusieurs autres personnes, tous les autres Congolais, qui ont du mal à revenir au pays. Donc, alors aujourd'hui, j'aimerais que tu t'es pas là, on attend qu'au-delà de ces personnes qui font un petit peu populisme, éclat, Moïse Diomindongala, Franck Diongo, qu'on puisse aller au plus bas pour libérer toutes ces personnalités et personnes qui ne jouissent pas de leur liberté à cause de leurs opinions.
Pierre Arlinga, comment vous entrevoyez l'avenir politique des gens comme Diomindongala, comme Franck Diongo, comme Moïse Katumbi et Moussa Nyamwisi, notamment?
Franck Diongo, mon ami, que je salue en passant, je crois que c'est quelqu'un qui ne baissera pas les bras. Vous avez suivi qu'il a déjà fait le premier tour de la ville ici à Kinshasa pour essayer de parler avec ses militants. Écoutez, la lutte pour la liberté, le combat pour la liberté ne s'arrête pas. Celui-ci s'achève avec notre mort physique. Et même si vous mourrez physiquement, il y aura toujours ceux qui prendront le relais pour continuer à lutter. Nous devons lutter pour être libres dans notre pays. Et ceci par rapport à toutes ces libertés provisoires, grâce présidentielle. Je sais qu'avec chaque nouveau régime, il y a de nouvelles pratiques dans le sens de pouvoir décrisper un peu la situation. Mais nous disons que ceci ne sanctifie pas les politiciens qui doivent croire que tout leur est permis parce qu'après, bon, on va dire qu'ils sont de prisonniers emblématiques.
Qu'est-ce que vous proposez pour lutter justement contre l'impunité et pour promouvoir les droits humains?
Avoir justement des institutions judiciaires fortes. Nous devons repenser notre système judiciaire. Nos magistrats doivent être bien payés. Ils doivent avoir des infrastructures qu'il faut et avoir surtout la conscience professionnelle pour faire leur travail comme il se doit. Ce n'est qu'à ce niveau-là, les gens ne doivent pas penser que la corruption c'est l'apanage du Congo seulement. La corruption se trouve un peu partout, mais il est question d'avoir sa conscience nationale, sa conscience professionnelle. Merci. Et comprendre qu'on travaille pour les Congolais. Et voilà, à ce niveau-là, nous allons espérer un Congo nouveau voulu par Tshisekedi pour que nous puissions justement aller de l'avant.
Merci.
Parce que c'est ça le souhait de plus d'un Congolais.
Thierry Bongo, en deux mots, il faut lutter contre l'impunité et promouvoir les droits humains.
Oui, il faut lutter contre l'impunité et promouvoir les droits humains. Et c'est pour cela que je vais même évoquer en ce moment même. Il y a un grand débat au niveau du Parlement autour du règlement intérieur. Je salue l'initiative de ma consœur qui est devenue députée, Christelle Vuanga, qui a qui a proposé qu'on puisse mettre en place une commission permanente pour les droits de l'homme. La question des droits de l'homme est une question épineuse, c'est une question de culture. Nous devons évoluer dans cette culture-là et il est nécessaire qu'on puisse mettre tous les canaux, tous les battants de notre côté pour qu'on puisse effectivement avoir un peuple congolais qui vit librement, qui jouit de ses droits et qui en profite de manière démocratique.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la technique, et Donald Madimba et Kéline Kouté qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sebou Jangwe. À la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi.